Alexandre Dumas, La Comtesse de Charny, tome 3, chapitre 1er, Les femmes et les fleurs, ce que le roi avait dit, ce qu'avait dit la reine. Quelques mois après les événements que nous venons de raconter, vers la fin du mois de mars 1791, une voiture suivant rapidement le chemin d'Argenteuil à Beson faisait un détour à un demi-quart de lieue de la ville, s'avançait vers le château du Marais, dont la grille s'ouvrait devant elle, et s'arrêtait au fond de la seconde cour, près de la première marche du perron. L'horloge, placée au fronton du bâtiment, marquait 8 heures du matin. Un vieux domestique, qui semblait attendre impatiemment l'arrivée de la voiture, se précipita vers la portière qu'il ouvrit, et un homme, entièrement vêtu de noir, s'élança sur les degrés. « Ah, monsieur Gilbert, dit le valet de chambre, vous voici enfin !»« Et qu'y a-t-il donc, mon pauvre Teiche ?» demanda le docteur. « Ah, hélas, monsieur, vous allez voir, dit le domestique. » Et, marchant devant le docteur, il lui fit traverser la salle de billard, dont les lampes, allumées sans doute à une heure avancée de la nuit, brûlaient encore. Puis la salle à manger, dont la table, couverte de fleurs, de bouteilles débouchées, de fruits et de pâtisseries, attestait un souper qui s'était prolongé au-delà des heures habituelles. Gilbert jeta sur cette scène de désordre, qui lui prouvait combien peu ses prescriptions avaient été suivies, un regard douloureux. Et puis, haussant les épaules avec un soupir, il s'engagea dans l'escalier qui conduisait à la chambre de Mirabeau, située au premier étage. « Monsieur le comte, dit le domestique en pénétrant le premier dans cette chambre, voici monsieur le docteur Gilbert. » « Comment, le docteur, dit Mirabeau, on a été le chercher pour une pareille niaiserie ?»« Niaiserie, murmura le pauvre Teiche, jugez-en par vous-même, monsieur. »« Oh, docteur, dit Mirabeau en se soulevant sur son lit, croyez que je suis au regret que, sans me consulter, on vous ait dérangé ainsi. » « D'abord, mon cher comte, ce n'est jamais me déranger que de me susciter une occasion de vous voir. Vous savez que je n'exerce que pour quelques amis, et ceux-là, je leur appartiens tout entier. Voyons, qu'est-il arrivé? Et surtout pas de secret pour la faculté. Teiche, tirez les rideaux et ouvrez les fenêtres. » Cet ordre exécuté, le jour envahit la chambre de Mirabeau jusque dans la pénombre, et le docteur put voir le changement qui s'était fait dans toute la personne du célèbre orateur depuis un mois à peu près qu'il ne l'avait rencontré. « Ah ! » fit-il malgré lui. « Oui, dit Mirabeau, je suis changé, n'est-ce pas ? Je vais vous dire d'où cela vient. » Gilbert sourit tristement, mais comme un médecin intelligent tire toujours parti de ce que lui dit son malade, dut-il dire un mensonge, il le laissa faire. « Vous savez, continua Mirabeau, quelles questions on débattait hier ?»« Oui, celle des mines. C'est une question encore mal connue, peu ou point approfondie. Les intérêts des propriétaires et du gouvernement ne sont pas assez distincts. D'ailleurs, le comte de la Marque, mon ami intime, était très intéressé dans la question. La moitié de sa fortune en dépendait. Sa bourse, cher docteur, a toujours été la mienne. Il me faut être reconnaissant. J'ai parlé, ou plutôt j'ai chargé 5 fois. À la dernière charge, j'ai mis les ennemis en déroute, mais je suis resté, ou à peu près, sur le carreau. Cependant, en rentrant, j'ai voulu célébrer la victoire. J'avais quelques amis à souper, on a ri, bavardé, jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, on s'est couché. À 5, j'ai été pris par des douleurs d'entrailles. J'ai crié comme un imbécile. Teiche a eu peur comme un poltron et il vous a envoyé chercher. Voilà, maintenant, vous êtes aussi savant que moi. Voilà le pouls, voilà la langue. Je souffre comme un damné. Tirez-moi de là si vous pouvez. Quant à moi, je vous déclare que je ne m'en mêle plus. Gilbert était un trop habile médecin pour ne pas voir, sans le secours de la langue et du pouls, la gravité de la situation de Mirabeau. Le malade était près de suffoquer, respirait avec peine, avait le visage gonflé par l'arrêt du sang dans les poumons. Il se plaignait de froid aux extrémités, et de temps en temps la violence de la douleur lui arrachait soit un soupir, soit un cri. Le docteur voulut cependant confirmer son opinion, déjà presque arrêtée par l'examen du pouls. Le pouls était convulsif, mais intermittent. « Allons, dit Gilbert, ce ne sera rien pour cette fois, mon cher comte, mais il était temps. » Et il tira sa trousse de sa poche avec cette rapidité et ce calme qui sont les signes distinctifs du véritable génie. « Ah, dit Mirabeau, vous allez me saigner ?»« À l'instant même. Au bras droit ou au bras gauche ?»« Ni à l'un ni à l'autre. Vous n'avez déjà les poumons que trop engorgés. Je vais vous saigner aux pieds, tandis que Teich va aller chercher à Argenteuil de la moutarde et des cantharides pour que nous les appliquions en sinapisme. Prenez ma voiture, Teich. » « Diable, fit Mirabeau, il paraît que, comme vous le disiez, docteur, il était temps. » Gilbert, sans lui répondre, procéda immédiatement à l'opération, et bientôt un sang noir et épais, après avoir hésité un instant, jaillit du pied du malade. Le soulagement fut instantané. « Ah, morbleu !» dit Mirabeau, respirant plus à l'aise. « Décidément, vous êtes un grand homme, docteur. » Et vous, un grand fou, comte, de risquer ainsi votre vie si précieuse à vos amis et à la France pour quelques heures de faux plaisir. Mirabeau sourit avec mélancolie, presque ironiquement. « Ah, mon cher docteur, dit-il, vous vous exagérez le cas que mes amis et la France font de moi. D'honneur, dit en riant Gilbert, les grands hommes se plaignent toujours de l'ingratitude des autres hommes, et ce sont eux, en général, qui sont ingrats. Soyez malade sérieusement, et demain vous aurez tout Paris sous vos fenêtres. Mourrez après-demain, et vous aurez toute la France à votre convoi. Savez-vous que c'est très consolant ce que vous me dites là ? Répondit en riant Mirabeau. C'est justement parce que vous pouvez voir l'un sans risquer l'autre que je vous dis cela, et en vérité vous avez besoin d'une grande démonstration qui vous remonte le moral. « Laissez-moi vous ramener à Paris, dans 2 heures, comte. Laissez-moi dire au commissionnaire du premier coin de rue que vous êtes malade, et vous verrez. Vous croyez que je puis être transporté à Paris ? Aujourd'hui même, oui. Qu'éprouvez-vous ? Je respire plus librement, ma tête se dégage, le brouillard que j'avais devant les yeux disparaît, je souffre toujours des entrailles. » « Oh, cela regarde les sinapismes, mon cher comte. La saignée a fait son œuvre, c'est au tour des sinapismes à faire la leur. Et, tenez, justement, voilà Teich. » Et en effet, Teich entra au moment même avec les ingrédients demandés. Un quart d'heure après, le mieux prédit par le docteur était arrivé. « Maintenant, dit Gilbert, je vous laisse 1 heure de repos et je vous emmène. » « Docteur, dit Mirabeau en riant, voulez-vous me permettre de ne partir que ce soir et de vous donner rendez-vous dans mon hôtel de la Chaussée d'Antin à 11 heures ?» Gilbert regarda Mirabeau. Le malade comprit que son médecin avait deviné la cause de ce retard. « Que voulez-vous, dit Mirabeau, j'ai une visite à recevoir. » « Mon cher comte, répondit Gilbert, j'ai bien vu des fleurs sur la table de la salle à manger. Ce n'était pas seulement un souper d'amis que vous avez donné hier. Vous savez que je ne saurais pas me passer de fleurs, c'est ma folie. »« Oui, mais les fleurs ne sont pas seules, comte. »« Oh, dame, si les fleurs me sont nécessaires, il faut bien que je subisse les conséquences de cette nécessité. » « Comte, comte, vous vous tuerez, dit Gilbert. Avouez, docteur, que ce sera du moins un charmant suicide. Comte, je ne vous quitte pas de la journée. Docteur, j'ai donné ma parole, vous ne voudriez pas m'y faire manquer. Vous serez ce soir à Paris. Je vous ai dit que je vous attendrai à 11 heures, dans mon petit hôtel de la rue de la Chaussée d'Antin. L'avez-vous déjà vu ? Pas encore. » C'est une acquisition que j'ai faite de Julie, la femme de Talma. En vérité, je me sens tout à fait bien, docteur. C'est-à-dire que vous me chassez. Oh, par exemple. Au reste, vous faites bien. Je suis du quartier aux Tuileries. Ah, vous verrez la reine, dit Mirabeau en s'assombrissant. Probablement. Avez-vous quelques messages pour elle ? Mirabeau sourit amèrement. Je ne prendrai point pareille liberté, docteur. Ne lui dites même pas que vous m'avez vu. Pourquoi cela? Parce qu'elle vous demanderait si j'ai sauvé la monarchie, comme je lui ai promis de le faire, et vous seriez obligé de lui répondre que non. Du reste, ajouta Mirabeau avec un rire nerveux, il y a autant de sa faute que de la mienne. Vous ne voulez pas que je lui dise que votre excès de travail, que votre lutte à la tribune vous tue? Mirabeau réfléchit un instant. Oui, répondit-il, dites-lui cela. Faites-moi même, si vous voulez, plus malade que je ne suis. Pourquoi? Pour rien, par curiosité, pour me rendre compte de quelque chose. Soit. Vous me promettez cela, docteur? Je vous le promets. Et vous me répéterez ce qu'elle aura dit. Oui, ses propres paroles. Ah bien, adieu, docteur, mille fois merci. Et il tendit la main à Gilbert. Gilbert regarda fixement Mirabeau, que ce regard parut embarrassé. « À propos, dit le malade, avant de vous en aller, que prescrivez-vous ? » ?»« Oh, dit Gilbert, des boissons chaudes et purement délayantes, chicorées ou bourraches, diète absolue, et surtout, pas de garde-malade qui ait moins de 50 ans, vous entendez, comte ?»« Le docteur, dit Mirabeau en riant, plutôt que de manquer à votre ordonnance, j'en prendrai 2 de 25. » À la porte, Gilbert rencontra Teich. Le pauvre garçon avait les larmes aux yeux. « Oh, monsieur, dit-il, pourquoi vous en allez-vous ? » ?»« Mais je m'en vais parce qu'on me chasse, mon cher Teich, dit Gilbert en riant. « Et tout cela pour cette femme, murmura le vieillard, et tout cela parce que cette femme ressemble à la reine, un homme qui a tant de génie à ce que l'on dit. Mon Dieu, faut-il être bête ?» Et sur cette conclusion, il ouvrit la porte à Gilbert, qui remonta en voiture, tout préoccupé et se demandant en tout bas « Que veut-il dire avec cette femme qui ressemble à la reine ?» Un instant, il arrêta le bras de Teich comme pour l'interroger. Mais tout bas encore, « Eh bien, qu'allais-je faire ? » dit-il. « C'est le secret de Mirabeau et non le mien. « Cocher, à Paris !» Gilbert s'acquitta scrupuleusement de la double promesse faite à Mirabeau. En rentrant dans Paris, il rencontra Camille Desmoulins, la Gazette vivante, le journal incarné du temps. Il lui annonça la maladie de Mirabeau, qu'il fit avec intention plus grave, non pas qu'elle ne pouvait devenir si Mirabeau faisait quelque nouvelle imprudence, mais qu'elle ne l'était en ce moment. Et puis il alla aux Tuileries et annonça cette même maladie au roi. Le roi se contenta de dire « Ah, pauvre comte, en a-t-il perdu l'appétit ?»« Oui, sire, répondit Gilbert. « Alors c'est grave, dit le roi, et il parla d'autre chose. » Gilbert, en sortant de chez le roi, entra chez la reine et lui répéta la même chose qu'il avait dite au roi. Le front hautain de la fille de Marie-Thérèse se plissa. « Pourquoi, dit-il, cette maladie ne l'a-t-elle point pris le matin du jour où il a fait son beau discours sur le drapeau tricolore ?» Puis, comme si elle se repentait d'avoir laissé échapper devant Gilbert l'expression de sa haine pour ce signe de la nationalité française, « Ah, n'importe, dit-elle, ce serait bien malheureux pour la France et pour nous, si cette indisposition faisait des progrès. » « Je croyais avoir eu l'honneur de dire à la reine, répéta Gilbert, que c'était plus qu'une indisposition, que c'était une maladie. « Dont vous vous rendrez maître, docteur, dit la reine. « J'y ferai mon possible, madame, mais je n'en réponds pas. « Docteur, dit la reine, je compte sur vous, vous entendez bien, pour me donner des nouvelles de monsieur de Mirabeau. » Et elle parla d'autre chose. Le soir, à l'heure dite, Gilbert montait l'escalier du petit hôtel de Mirabeau. Mirabeau l'attendait, couché sur une chaise longue, mais comme on l'avait fait demeurer quelques instants au salon, sous prétexte de prévenir le comte de sa présence, Gilbert jeta, en entrant, un regard autour de lui et ses yeux arrêtèrent sur une écharpe de cachemire, oubliée sur un fauteuil. Mais, soit pour détourner l'attention de Gilbert, soit qu'il attacha une grande importance à la question qui devait suivre les premières paroles échangées avec lui et le docteur, « Ah, dit Mirabeau, c'est vous. J'ai appris que vous aviez déjà tenu une partie de votre promesse. Paris sait que je suis malade, et le pauvre Teich n'a pas, depuis 2 heures, été 10 minutes sans donner de mes nouvelles à mes amis, qui viennent voir si je vais mieux, peut-être à mes ennemis, qui viennent voir si je vais plus mal. Voilà pour la première partie. Maintenant, avez-vous été aussi fidèle à la seconde? Que voulez-vous dire? Demanda Gilbert en souriant. Vous le savez bien. Gilbert haussa les épaules en signe de négation. Avez-vous été aux Tuileries? Oui. Avez-vous vu le roi? Oui. Avez-vous vu la reine? Oui. Et vous leur avez annoncé qu'ils seraient bientôt débarrassés de moi. Je leur ai annoncé que vous étiez malade, du moins. Et qu'ont-ils dit? Le roi a demandé si vous aviez perdu l'appétit. Et sur votre réponse affirmative, il vous a plaint, très sincèrement. Bon roi, le jour de sa mort, il dira à ses amis comme Léonidas, « Je soupe ce soir chez Pluton ». Mais la reine vous a plaint et s'est informée de vous avec intérêt. « Oh, quel terme, docteur !» dit Mirabeau, qui attachait évidemment une grande valeur à la réponse qu'allait lui faire Gilbert. « Mais en très bon terme, » dit le docteur. « Vous m'avez donné votre parole de me répéter textuellement ce qu'elle vous aurait dit. »« Oh, je ne saurais me le rappeler mot à mot. »« Docteur, vous n'en avez pas oublié une syllabe. »« Je vous jure. »« Docteur, j'ai votre parole. Voulez-vous que je vous traite d'homme sans foi ?»« Vous êtes exigeant, en compte. »« Voilà comme je suis. »« Vous voulez absolument que je vous répète les paroles de la reine ?»« Mot pour mot. » Eh bien, elle a dit que cette maladie aurait dû vous prendre le matin du jour où vous avez défendu à la tribune le drapeau tricolore. Gilbert voulait juger de l'influence que la reine avait sur Mirabeau. Celui-ci bondit sur sa chaise longue comme s'il eût été mis en contact avec une pile de Volta. « Ingratitude des rois, murmura-t-il. Ce discours a suffi pour lui faire oublier la liste civile de 24 millions de rois et son douaire de 4 millions à elle. Mais elle ne sait donc pas, cette femme, elle ignore donc, cette reine, qu'il s'agissait de reconquérir d'un seul coup ma popularité perdue pour elle. Mais elle ne se souvient donc plus que j'ai proposé l'ajournement de la réunion d'Avignon à la France pour soutenir les scrupules religieux du roi. Faute. Elle ne se souvient donc plus que pendant ma présidence aux Jacobins, présidence de 3 mois qui m'a pris 10 ans de ma vie, j'ai défendu la loi de la garde nationale restreinte aux citoyens actifs. Faute. Elle ne se souvient donc plus que, dans la discussion à l'Assemblée du projet de loi sur le serment des prêtres, j'ai demandé qu'on restreignît le serment aux prêtres confesseurs. Faute. Ah, c'est faute, c'est faute. Je les ai bien payés, continua Mirabeau. Et cependant, ce ne sont point ces fautes qui m'ont fait tomber. Car il y a des époques étranges, singulières, anormales, où l'on ne tombe point par les fautes que l'on commet. Un jour, pour eux encore, j'ai défendu une question de justice, d'humanité. On attaquait la fuite des tentes du roi, on proposait une loi contre l'émigration. Si vous faites une loi contre les émigrants, me suis-je écrié, je jure de n'y obéir jamais. Et le projet de loi a été rejeté à l'unanimité. Eh bien, ce que n'avaient pu faire mes échecs, mon triomphe l'a fait. On m'a appelé dictateur, on m'a lancé à la tribune par la voix de la colère, la pire des routes que puisse prendre un orateur. Ah, je triomphais une seconde fois, mais en attaquant les Jacobins. Alors les Jacobins jurèrent ma mort, les niaient. Duport, Lamette, Barnave, ils ne voient pas qu'en me tuant, ils donnent la dictature de leur tripot à Robespierre. Moi qu'ils eussent dû garder comme la prunelle de leurs yeux, ils m'ont écrasé sous leur stupide majorité. Ils ont fait couler sur mon front la sueur de sang. Ils m'ont fait boire le calice d'amertume jusqu'à la lie. Ils m'ont couronné d'épines, mis le roseau entre les mains, crucifié enfin. Heureux d'avoir subi cette passion comme le Christ pour une question d'humanité. Le drapeau tricolore. Ils ne voient donc pas que c'est leur seul refuge, que s'il voulait venir loyalement, publiquement, s'asseoir à son ombre, cette ombre les sauverait encore peut-être. Mais la reine, elle ne veut pas être sauvée, elle veut être vengée, elle ne goûte aucune idée raisonnable. Le moyen que je propose comme étant le seul efficace est celui qu'elle repousse le plus. Être modéré, être juste et autant que possible avoir toujours raison. J'ai voulu sauver deux choses à la fois, la royauté et la liberté, lutte ingrate dans laquelle je combats seul, abandonné. Contre quoi? Si c'était contre des hommes, ce ne serait rien. Contre des tigres, ce ne serait rien. Contre des lions, ce ne serait rien. Mais c'est contre un élément, contre la mer, contre le flot qui monte, contre la marée qui grandit. Hier j'en avais jusqu'à la cheville, aujourd'hui j'en ai jusqu'au genou, demain j'en aurai jusqu'à la ceinture, après-demain par-dessus la tête. Aussi, tenez docteur, il faut que je sois franc avec vous. Le chagrin m'a pris d'abord, puis le dégoût. J'avais rêvé le rôle d'arbitre entre la Révolution et la monarchie. Je croyais prendre ascendant sur la reine comme homme, et comme homme, un beau jour qu'elle se serait aventurée imprudemment dans le fleuve et aurait perdu pied, me jeter à l'eau et la sauver. Mais non, on n'a jamais voulu céder sérieusement de moi, docteur. On a voulu me compromettre, me dépopulariser, me perdre, m'annihiler, me rendre impuissant au mal comme au bien. Aussi, maintenant, ce que j'ai de mieux à faire, docteur, je vais vous le dire, c'est de mourir à temps. C'est surtout de me coucher artistement, comme l'athlète antique. C'est de tendre la gorge avec grâce. C'est de rendre le dernier soupir convenablement. Et Mirabeau se laissa retomber sur sa chaise longue, dont il mordit l'oreiller à pleines dents. Gilbert savait ce qu'il voulait savoir, c'est-à-dire où était la vie et la mort de Mirabeau. « Comte, demanda-t-il, que diriez-vous si demain le roi envoyait prendre de vos nouvelles ?» Le malade fit un mouvement des épaules qui voulait dire « Cela me serait bien égal. » « Le roi ou la reine ?» ajouta Gilbert. « Hein ?» fit Mirabeau en se redressant. « Je dis le roi ou la reine ?» répéta Gilbert. Mirabeau se souleva sur ses deux poings comme un lion accroupi et essaya de lire jusqu'au fond du cœur de Gilbert. « Elle ne le fera pas, dit-il. Mais enfin, si elle le faisait, vous croyez, dit Mirabeau, qu'elle descendrait jusque-là ? Je ne crois rien, je suppose, je présume. Soit, dit Mirabeau, j'attendrai jusqu'à demain au soir. Que voulez-vous dire ? Mais prenez les mots dans le sens qu'ils ont, docteur, et ne voyez pas en eux autre chose que ce qu'ils veulent dire. J'attendrai jusqu'à demain au soir. Et à demain au soir ? Eh bien, demain au soir, si elle l'a envoyé, docteur, si, par exemple, Monsieur Weber est venu, vous avez raison, et c'est moi qui ai tort. Mais si, au contraire, il n'est pas venu, oh, alors, c'est vous qui avez tort, docteur, et c'est moi qui ai raison. Soit, à demain au soir. Jusque-là, mon cher Démosthène, du calme, du repos, de la tranquillité. Je ne quitterai pas ma chaise longue. Et cette écharpe, hein. Gilbert montra du doigt l'objet qui le premier avait frappé ses yeux en entrant dans la chambre. « Parole d'honneur, dit-il. « Bon, dit Gilbert, tâchez de passer une nuit paisible, je réponds de vous. » Et il sortit. À la porte, Teige l'attendait. « Eh bien, mon brave Teige, ton maître va mieux, dit le docteur. » Le vieux serviteur secoua tristement la tête. « Comment, reprit Gilbert, tu doutes de ma parole ?» Je doute de tout, monsieur le docteur, tant que son mauvais génie sera près de lui. Et il poussa un soupir en laissant Gilbert dans l'étroit escalier. À l'angle d'un des paliers, Gilbert vit comme une ombre voilée qui l'attendait. Cette ombre, en l'apercevant, jeta un cri léger et disparut derrière une porte entr'ouverte pour lui faciliter cette retraite qui ressemblait à une fuite. « Quelle est cette femme ? » demanda Gilbert. « C'est elle, répondit-je. Et qui elle ? La femme qui ressemblait à la reine. » Gilbert, pour la seconde fois, parut frappé de la même idée en entendant la même phrase. Il fit deux pas en avant, comme s'il eût voulu poursuivre le fantôme, mais il s'arrêta en murmurant « Impossible !» et il continua son chemin, laissant le vieux domestique désespéré qu'un homme aussi savant que l'était le docteur n'entreprît point d'adjurer le démon qu'il tenait dans sa conviction la plus profonde pour un envoyé de l'enfer. Mirabeau passa une assez bonne nuit. Le lendemain de bonne heure, il appela Taige et lui fit ouvrir les fenêtres pour respirer l'air du matin. La seule chose qui inquiétait le vieux serviteur, c'était l'impatience fébrile à laquelle le malade paraissait en proie. Quand, interrogé par son maître, il avait répondu qu'il était 8 heures à peine, Mirabeau n'avait pas voulu le croire et s'était fait apporter sa montre pour s'en assurer. Cette montre, il l'avait posée sur la table à côté de son lit. « Taïche, dit-il au vieux domestique, vous prendrez en bas la place de Jean, qui fera aujourd'hui le service près de moi. »« Oh, mon Dieu, dit Taïche, aurais-je eu le malheur de mécontenter monsieur le comte ?»« Au contraire, mon beau Taïche, dit Mirabeau attendri, c'est parce que je ne me fie qu'à toi que je te place aujourd'hui à la porte. » À chaque personne qui viendra demander de mes nouvelles, tu diras que je vais mieux, mais que je ne reçois pas encore. Seulement, si on vient de la part de la... » Mirabeau s'arrêta et reprit. « Seulement si l'on vient du château, si l'on m'envoie des Tuileries, tu feras monter le messager, tu entends bien. Sous quelque prétexte que ce soit, tu ne le laisseras pas s'en aller sans que je lui parle. » « Tu vois, mon bon Taïche, qu'en t'éloignant de moi, je t'élève à l'emploi de confident. » Taïche prit la main de Mirabeau et il la baisa. « Oh, monsieur le comte, dit-il, si seulement vous vouliez vivre !» Et il sortit. « Parbleu, dit Mirabeau, en le regardant s'éloigner, voilà justement le difficile. » À 10 heures, Mirabeau se leva et s'habilla avec une sorte de coquetterie. Jean le coiffa et le rasa, puis il lui approcha un fauteuil de la fenêtre. De cette fenêtre, il pouvait voir dans la rue. À chaque coup de marteau, à chaque vibration de la sonnette, on eût pu voir de la maison d'en face son visage anxieux apparaître derrière le rideau soulevé, son regard perçant plongé jusque dans la rue, et puis le rideau retombé pour se relever de nouveau à la prochaine vibration de la sonnette, au prochain coup de marteau. À 2 heures, Taïche monta, suivi d'un laquais. Le cœur de Mirabeau battit violemment. Le laquais était sans livrée. La première idée qui lui passa par l'esprit, c'est que cette espèce de grison venait de la part de la reine, et ainsi vêtu, pour ne point compromettre celle qui l'envoyait. Mirabeau se trompait. « De la part de monsieur le docteur Gilbert, dit Taïche. » Ah, fit Mirabeau en pâlissant, comme s'il eût eu 25 ans et que, attendant un messager de madame de Monnier, il eût vu arriver un coureur de son oncle le bailli. « Monsieur, dit-je, comme ce garçon vient de la part de monsieur le docteur Gilbert et qu'il est porteur d'une lettre pour vous, j'ai cru pouvoir faire en sa faveur une exception à la consigne. » « Tu as bien fait, dit le comte. » Et puis au laquais, « La lettre ? » demanda-t-il. Celui-ci la tenait à la main et la présenta au comte. Mirabeau l'ouvrit. Elle ne contenait que ces quelques mots. « Donnez-moi de vos nouvelles, je serai chez vous à 11 heures du soir. J'espère que le premier mot que vous me direz est que j'avais raison et que vous aviez tort. » Tu diras à ton maître que tu m'as trouvé debout et que je l'attends ce soir, dit Mirabeau au laquais. Puis à Taïche, que ce garçon s'en aille content, dit-il. Taïche fit signe qu'il comprenait et emmena le grison. Les heures se succédèrent, la sonnette ne cessait de vibrer, le marteau de retentir. Paris tout entier s'inscrivait chez Mirabeau. Il y avait dans la rue des groupes d'hommes du peuple qui, ayant appris la nouvelle, non pas telle que les journaux l'avaient dite, ne voulaient pas croire au bulletin rassurant de Taïche et forçaient les voitures de prendre à droite et à gauche de la rue pour que les bruits des roues ne fatiguassent point l'illustre malade. Vers les 5 heures, Taïche jura à propos de faire une seconde apparition dans la chambre de Mirabeau afin de lui annoncer cette nouvelle. « Ah, dit Mirabeau, en te voyant, mon pauvre Taïche, j'avais cru que tu avais quelque chose de mieux à m'apprendre. Quelque chose de mieux, dit-elle étonnée. Je ne croyais pas que je puisse annoncer à monsieur le comte quelque chose de mieux qu'une pareille preuve d'amour. Tu as raison, t'ai-je dit Mirabeau, je suis un ingrat. Aussi, quand ai-je eu refermé la porte, Mirabeau ouvrit-il la fenêtre. Il s'avança sur le balcon et fit de la main un signe de remerciement aux braves gens qui s'étaient établis, les gardiens de son repos. Ceux-ci le reconnurent et les cris de « Vive Mirabeau !» retentirent d'un bout à l'autre de la chaussée d'Antin. À quoi pensait Mirabeau pendant qu'on lui rendait cet hommage inattendu qui, en toute autre circonstance, eût fait bondir son cœur de joie? Il pensait à cette femme hautaine qui ne s'inquiétait point de lui, et son œil allait chercher au-delà des groupes pressés alentour de sa maison s'il n'apercevait pas quelques laquais en livrée bleue du côté des boulevards. Il rentra dans sa chambre le cœur serré. L'ombre commençait à venir, il n'avait rien vu. La soirée s'écoula comme la journée. L'impatience de Mirabeau s'était changée en une sombre amertume. Son cœur, sans espérance, n'allait plus au-devant de la sonnette ou du marteau. Non, il attendait, le visage empreint d'une sombre amertume, cette preuve d'intérêt qui lui était presque promise et qui n'arrivait pas. À 11 heures, la porte s'ouvrit et Teich annonça le docteur Gilbert. Celui-ci entrait en souriant. Il fut effrayé de l'expression du visage de Mirabeau. Ce visage était le miroir fidèle des bouleversements de son cœur. Gilbert se douta de tout. N'est-on point venu? Demanda-t-il. D'où cela? Fit Mirabeau. Vous savez bien ce que je veux dire. Moi, non, sur mon honneur. Du château, de sa part, au nom de la reine. Ah, pas le moins du monde, mon cher docteur, il n'est venu personne. Impossible, fit Gilbert. Mirabeau haussa les épaules. Naïf homme de bien, dit-il. Puis, saisissant la main de Gilbert avec un mouvement convulsif, voulez-vous que je vous dise ce que vous avez fait aujourd'hui, docteur? Demanda-t-il. Moi, dit le docteur, mais je fais à peu près ce que je fais tous les jours. Non, car tous les jours vous n'allez pas au château, et aujourd'hui vous y avez été. Non, car tous les jours vous ne voyez pas la reine, et aujourd'hui vous l'avez vue. Non, car tous les jours vous ne vous permettez pas de lui donner des conseils, et aujourd'hui vous lui en avez donné un. Allons donc, dit Gilbert. Tenez, cher docteur, je vois ce qui s'est passé, et j'entends ce qui s'est dit comme si j'avais été là. Eh bien, voyons, monsieur l'homme à double vue, que s'est-il passé? Que s'est-il dit? Vous avez été présenté aux Tuileries aujourd'hui à 1 heure, vous avez demandé à parler à la reine, vous lui avez parlé, vous lui avez dit que mon état empirait, qu'il serait bon à elle comme reine, bien à elle comme femme, d'envoyer, demander des nouvelles de ma santé, sinon par sollicitude, du moins par calcul. Elle a discuté avec vous, elle a paru convaincue que vous aviez raison, elle vous a congédié en disant qu'elle allait envoyer chez moi. Vous vous en êtes en allé heureux et satisfait, comptant sur la parole royale, et elle est restée hautaine et amère, riant de votre crédulité, qui ignore qu'une parole royale n'engage à rien. Voyons, foi d'honnête homme, dit Mirabeau en regardant Gilbert en face, est-ce cela, docteur? En vérité, dit Gilbert, vous eussiez été là, mon cher comte, que vous n'eussiez pas mieux vu ni mieux entendu. Le maladroit, dit Mirabeau avec amertume, quand je vous disais qu'ils ne savent rien faire à propos, la livrée du roi entrant chez moi aujourd'hui, au milieu de cette foule qui criait « Vive Mirabeau !» devant ma porte et sous mes fenêtres, leur redonnait pour 1 an de popularité. Et Mirabeau, secouant la tête, porta vivement la main à ses yeux. Gilbert, étonné, le vit essuyer une larme. Qu'avez-vous donc, comte? Lui demanda-t-il. Moi, rien, dit Mirabeau. Avez-vous des nouvelles de l'Assemblée nationale, des Cordeliers ou des Jacobins? Robespierre a-t-il distillé quelque nouveau discours, ou Marat vomi quelque nouveau pamphlet? Y a-t-il longtemps que vous n'avez mangé? Demanda Gilbert. Pas depuis 2 heures de l'après-midi. En ce cas, vous allez vous mettre au bain, mon cher comte. Oh, tiens, en effet, c'est une excellente idée que vous avez là, docteur. Jean, un bain. Ici, monsieur le comte. Oh, non, non, à côté, dans le cabinet de toilette. 10 minutes après, Mirabeau était au bain et, comme d'habitude, Taïche reconduisait Gilbert. Mirabeau se souleva de sa baignoire pour suivre des yeux le docteur, puis, lorsqu'il l'eut perdu de vue, il tendit l'oreille pour écouter le bruit de ses pas. Puis il resta immobile, ainsi, jusqu'à ce qu'il eût entendu s'ouvrir et se refermer la porte de l'hôtel. Alors, sonnant violemment, « Jean, dit-il, faites dresser une table dans ma chambre et allez demander de ma part à Oliva si elle veut me faire la grâce de souper avec moi. » Puis, comme le laquais sortait pour obéir, « Des fleurs, hein, surtout des fleurs !» cria Mirabeau, « J'adore les fleurs !» À 4 heures du matin, le docteur Gilbert fut réveillé par un violent coup de sonnette. « Ah, dit-il en sautant à bas de son lit, je suis sûr que monsieur de Mirabeau est plus mal. » Le docteur ne se trompait pas. Mirabeau, après s'être fait servir à souper, après avoir fait couvrir la table de fleurs, avait renvoyé Jean et ordonné à Taïche d'aller se coucher. Puis il avait fermé toutes les portes, excepté celle qui donnait chez la femme inconnue que le vieux domestique appelait son mauvais génie. Mais les deux serviteurs ne s'étaient point couchés. Jean seulement, quoique le plus jeune, s'était endormi sur un fauteuil dans l'antichambre. Taïche avait veillé. À 4 heures moins un quart, un violent coup de sonnette avait retenti. Tous deux s'étaient précipités vers la chambre à coucher de Mirabeau. Les portes en étaient fermées. Alors ils eurent l'idée de faire le tour de l'appartement de la femme inconnue et purent pénétrer ainsi jusqu'à la chambre à coucher. Mirabeau, renversé, à demi évanoui, retenait cette femme entre ses bras, sans doute pour qu'elle ne pût pas appeler au secours, et elle, épouvantée, sonnait avec la sonnette de la table, n'ayant pu aller jusqu'au cordon de sonnette de la cheminée. En apercevant les deux domestiques, elle avait appelé autant à son secours qu'au secours de Mirabeau. Dans ses convulsions, Mirabeau l'étouffait. On eût dit la mort déguisée et essayant de l'entraîner dans le tombeau. Grâce aux efforts réunis des deux domestiques, les bras du moribond s'étaient écartés. Mirabeau était retombé sur son siège et elle, tout éplorée, était rentrée dans son appartement. Gilbert avait alors couru chercher le docteur Gilbert, tandis que Taïche essayait de donner les premiers soins à son maître. Gilbert ne prit ni le temps de faire atteler, ni celui de faire approcher une voiture. De la rue Saint-Honoré à la chaussée d'Antin, la course n'était pas longue. Il suivit Jean, et 10 minutes après, il était arrivé à l'hôtel de Mirabeau. Taïche attendait dans le vestibule du bas. « Eh bien, mon ami, qu'y a-t-il encore ? » demanda Gilbert. « Ah, monsieur, dit le vieux serviteur, cette femme, toujours cette femme, et puis ces maudites fleurs, vous allez voir, vous allez voir. » En ce moment, on entendit quelque chose comme un sanglot. Gilbert monta précipitamment. Comme il arrivait aux dernières marches de l'escalier, une porte voisine de la porte de Mirabeau s'ouvrit, et une femme, enveloppée d'un peignoir blanc, apparut tout à coup et vint tomber aux pieds du docteur. « Oh, Gilbert, Gilbert, dit-elle en lui jetant ses deux mains sur la poitrine, au nom du ciel, sauvez-le !»« Nicole, s'écria Gilbert, Nicole, oh malheureuse, c'était donc vous !»« Sauvez-le, sauvez-le, dit Nicole. » Gilbert resta un instant comme abîmé dans une idée terrible. « Oh » murmura-t-il, Beau-Cyr vendant des pamphlets contre lui, Nicole, sa maîtresse, il est bien véritablement perdu car il y a du Cagliostro là-dessous. Et il s'élança dans l'appartement de Mirabeau, comprenant bien qu'il n'y avait pas un instant à perdre.